Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Damas est-elle l'épicentre du désordre mondial ? Tous les conflits armés sont compliqués, mais en matière de complexité, la guerre qui détruit la Syrie depuis plus de 4 ans pourrait devenir un cas d'école. On se perd aujourd'hui dans la cartographie des combats, la diversité des belligérants, la nature de leurs alliances, souvent fluctuantes. C'est que le conflit n'est plus seulement syrien, mais régional, voire international, si l'on prend en compte deux de ses conséquences majeures, la crise des migrants et la menace terroriste islamiste. Tout avait pourtant commencé de manière apparemment limpide, en mars 2011. D'un côté, un régime autoritaire, brutal, celui de Bachar el-Assad. De l'autre, non pas encore des rebelles, mais des citoyens happés par l'enthousiasme des printemps arabes, demandeurs d'une société plus juste. Ce temps-là est loin désormais. Le monde a mis trop longtemps à réagir, déplorait François Hollande la semaine dernière dans son discours aux ambassadeurs, comme si l'enchaînement des événements avait une part d'irréversible. Il serait néanmoins abusif de parler de fatalisme, puisque pour la première fois, il y a quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a été unanime autour d'une ébauche de plan politique de sortie de crise, car il faudra bien en sortir d'une manière ou d'une autre, tant ce qui se passe dans ce pays a de conséquences à l'extérieur de ce qui lui reste de frontières. Alors Damas est-elle l'épicentre du désordre mondial ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter ce soir, Denis Bauchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour le Moyen-Orient à l'IFRI, Institut français des relations internationales, ancien diplomate. Vous avez notamment dirigé le département Afrique du Nord-Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Deuxième invité, Pierre Razou, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé d'enseignement à Sciences Po et à l'École de guerre. Vous avez publié chez Perrin en 2013 « La guerre Iran-Irak 1980-1988, première guerre du Golfe ». Et puis troisième invité, il est journaliste, c'est Christophe Ayad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef au Monde, chef du service international. Alors la première question, je vous la pose à tous les trois. Enfin, on va essayer de... Vous allez essayer de répondre dans l'ordre, malgré tout. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, parce que finalement, c'est la réflexion qui nous a inspiré l'émission, que l'instabilité régionale au Moyen-Orient, la crise des migrants et la menace terroriste ne peuvent aujourd'hui trouver de règlement et d'issue tant qu'il n'y aura pas un règlement du conflit syrien. Pierre Razou.
Je suis un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe en Syrie est clairement, évidemment, une manifestation d'abord et avant tout, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas l'épicentre en lui-même, c'est uniquement une zone d'expression de tous les conflits et de tous les facteurs cruciaux qui jouent et qui impactent sur tout ce que vous venez de citer. C'est-à-dire que je vois trois facteurs à l'œuvre, on va dire globalement dans la région. Le premier, c'est le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran et la réinsertion progressive de Téhéran dans la communauté internationale et qui se manifeste aussi en Syrie, mais pas qu'en Syrie, plus généralement sur l'ensemble du Moyen-Orient. Le deuxième facteur, c'est l'antagonisme virulent entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui se manifeste bien évidemment en Syrie, mais aussi dans de nombreux autres endroits, par exemple au Yémen ou dans le golfe arabo-persique. Et le troisième, c'est la fragmentation fondamentale du monde sunnite qui est de plus en plus divisé et qui s'exprime notamment par l'affrontement idéologique entre d'un côté les wahhabites et les salafistes et de l'autre côté les frères musulmans. Et là aussi, il y a une expression directe en Syrie, mais pas qu'en Syrie, puisqu'on la retrouve un petit peu partout.
Mais est-ce que le fait que ces trois éléments que vous venez de décrire, Pierre Razou, se retrouvent tous les trois en Syrie, ça ne fait pas quand même de ce pays, alors si ce n'est en tout cas l'épicentre d'un désordre mondial, enfin en tout cas une sorte de vitrine du désordre mondial.
Oui, c'est une vitrine du désordre mondial, et si vous voulez, tel que je le comprends, c'est beaucoup plus le carrefour des luttes d'influence que l'épicentre lui-même. C'est-à-dire que la Syrie est au carrefour des luttes d'influence et des lignes d'intérêt majeures des grands acteurs de la région, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Israël et aussi bien sûr les Occidentaux. Donc en fait, tout cela, tous ces intérêts clashent, si vous voulez, en Syrie, mais ils clashent aussi ailleurs. L'image que j'aimerais laisser, et je passe la parole ensuite à mes camarades, c'est que la Syrie ne représente que quelques cases cruciales sur l'échiquier de la grande partie d'échecs qui est actuellement en train de se passer au Moyen-Orient et qui évolue de temps en temps, un coup au Yémen, un coup directement entre l'Arabie et l'Iran, un coup en Irak, un coup en Syrie, un coup en Égypte.
Alors Denis Bauchard, la Syrie, épicentre, carrefour, vitrine, quel serait le terme qui vous conviendrait ?
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pierre Razou. Effectivement, c'est l'épicentre, c'est une vitrine. Mais je pense qu'il faut prendre l'échiquier dans son ensemble. Et notamment, je pense que Syrie et Irak font maintenant qu'un. C'est un seul champ de bataille où se retrouvent quatre acteurs, les gouvernements légitimes, les opposants, les sunnites, les chiites, les kurdes, ça en fait cinq d'ailleurs, et qui, je dirais, à la fois veulent faire prévaloir leur influence et qui, je dirais, n'arrivent pas à trouver le moindre terrain d'entente. S'agissant de la Syrie, je pense que ce qui fait le caractère tragique de la Syrie, c'est qu'il ne s'agit pas d'un champ de bataille entre le régime et une opposition, mais qu'il y a au moins trois ou quatre guerres civiles qui s'interpénètrent. Guerre civile entre effectivement une opposition modérée qui est de plus en plus en voie d'évaporation et le régime. Un affrontement entre cette opposition et un certain nombre de groupes radicaux. Des affrontements entre Daesh et Front el-Nosra, deux groupes, deux mouvements djihadistes. Et enfin, une guerre qui touche également les Kurdes. Affrontement entre Kurdes et Daesh, affrontement, ou plutôt complaisance, entre Kurdes et le régime.
Christophe Ayad, sur cette même question.
Bon, alors, il y a tellement de choses intelligentes qui ont été dites que je ne vais pas en ajouter beaucoup, mais je peux essayer de vous résumer ça, je suis totalement d'accord avec Denis Bochard, de résumer ça par une formule, c'est-à-dire que si vous voulez venir à bout du désordre mondial, il faut venir à bout du désordre syrien, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que, après tout, il y a un désordre tout aussi grand en Irak qui dure depuis plus longtemps, qui dure depuis 2003. Donc ce désordre-là, qu'on a tendance à peut-être sous-estimer parce qu'on s'y habituait, il est lui-même source d'instabilité, etc., de migration. On s'émeut aujourd'hui de voir des dizaines de milliers de Syriens quitter tous les jours la Turquie, notamment pour rejoindre le territoire de l'Union européenne via la Grèce, etc. Mais il y a eu des dizaines et des centaines de milliers d'Irakiens qui ont quitté l'Irak de manière un peu invisible entre 2003, même avant, sous Saddam Hussein déjà, au temps d'embargo. Et ce pays a connu une hémorragie sans fin qui a essaimé, alors qui s'est installé en Australie, etc. Mais pour revenir à la question syrienne, effectivement, c'est la difficulté, c'est que vous avez quatre Syries et que chacune est en guerre contre les trois autres. Donc ça fait, je ne sais pas, 8-9 conflits. Vous avez la Syrie du gouvernement, vous avez la Syrie des rebelles, on va plus dire modérés, mais des rebelles avec qui on peut parler, avec qui on peut traiter. Donc de la rébellion qui est présente dans le nord et dans le sud du pays. Vous avez la Syrie de Daesh, qui contrôle quasiment la moitié du territoire, même s'il est très vide. Et puis vous avez la Syrie des Kurdes, a émergé une entité kurde qui est alliée au régime, plus ou moins, mais qui a sa propre logique et ses propres intérêts. Donc déjà, si vous voulez résoudre la question syrienne, il va falloir résoudre les problèmes, conflits entre ces différentes entités. Et puis ensuite, il va falloir résoudre une question régionale, c'est-à-dire qu'en Syrie, il se déroule une guerre par procuration entre plusieurs puissances régionales, l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, la Turquie, etc. Et puis, il y a un conflit international qui est, d'une certaine manière, un réveil. Alors, d'une forme de guerre froide, parce que la guerre froide avait des règles. Là, on est dans l'établissement de règles entre la Russie de Poutine, qui veut reconstruire un ordre dans lequel il a son avantage, et dans lequel il essaie d'entraîner la Chine, et puis, d'autre part, les États-Unis et les pays européens, qui ne sont pas non plus extrêmement alignés dans leur lecture de la crise syrienne ou dans leur intérêt. Proche. Après tout, les migrants syriens, ils débarquent en Europe, ils ne débarquent pas aux États-Unis. Donc c'est pas tout à fait la même perception de cette crise.
Donc si je vous suis finalement tous les trois, c'est pas très éloigné, hein, ce que vous dites, c'est que à la fois de par la régionalisation de ce conflit et l'extrême complexité à l'intérieur même des frontières syriennes, enfin je sais pas si on peut encore d'ailleurs très bien parler de frontières s'agissant de la Syrie, mais ça empêche Aujourd'hui, si on devait émettre des priorités d'intervention diplomatique ou militaire, Pierre Razou, de prendre la Syrie à part. On est obligé de la prendre dans un ensemble beaucoup plus large. Ça ne peut pas être priorisé de manière...
Oui, bien sûr, comme le disait très justement Denis Bochard, ça fait longtemps, ça fait déjà au moins 2 ans, 3 ans que on peut plus parler d'un dossier ou d'un front syrien, c'est-à-dire que c'est un front global. C'est le front syro-irakien et c'est le front de Daesh et les deux sont directement liés. Je me trompe peut-être, mais de mon point de vue, la question fondamentale et ce qui explique que personne n'ait véritablement les moyens ou l'intention d'aller jusqu'au bout pour lutter contre Daesh, c'est que Daesh pose une question fondamentale aux dirigeants de la région et tout particulièrement au pouvoir saoudien, au pouvoir turc et aux occidentaux, en leur disant fondamentalement, vous voulez quoi ? Vous voulez un État sunnite bouclier pour empêcher la pénétration de l'influence iranienne en direction du Proche-Orient et de la Méditerranée ? Et dans ces cas-là, il va falloir accepter le redécoupage territorial de cette région du Proche-Orient, c'est-à-dire c'est la fin complètement de Sykes-Picot, donc la fragmentation des frontières, les frontières volent en éclats, on redécoupe tout. Ou bien, donc c'est le Daesh qui finalement pose cette question à ses interlocuteurs de manière indirecte.
Et comment vous y répondriez, vous, à cette question ?
Et personne ne veut y répondre. Ou bien vous voulez le maintien du statu quo et des frontières, et dans ces cas-là, vous aurez le chaos pour un bon moment. Et personne ne sait ou ne veut répondre à cette question, parce que comme le disait Christophe Ayad, derrière il y a notamment la redéfinition de la région et bien entendu quelle place accorder aux Kurdes.
J'ai trouvé quelqu'un qui accepte d'y répondre à cette question, c'est Alain Marceau. Alors on l'entend beaucoup en ce moment sur les questions de terrorisme, ancien magistrat chargé de la lutte antiterroriste, c'est un député républicain des Français de l'étranger. Et alors hier dans une interview au Figaro, il disait ceci: je me demande si Daesh n'est pas un élément stabilisateur de la région. Alors, je résume forcément son propos, il n'y a pas tout, toute l'interview, mais Daesh est en train de créer un Sunnitland, ce qui n'a jamais existé, parce que finalement le Moyen-Orient est en train de souffrir des accords de Sykes-Picot de 1916. Aujourd'hui, on est en train de créer un État sunnite, et il y avait besoin d'un État sunnite. Christophe Ayad.
Oui, mais le problème, c'est que si la norme du sunnite du Proche-Orient, du sunnite moyen du Levant, c'est Daesh, vous allez fabriquer un État complètement... j'allais dire arriéré, mais pas seulement, arriéré, moderne dans le terrorisme, etc. Daesh n'a pas pour projet de s'arrêter là. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi, ça va menacer tous les autres États sunnites du Proche-Orient, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui est à la tête des premières réserves mondiales de pétrole. Donc c'est ça que Monsieur Marceau propose, ça me paraît un petit peu inquiétant. Mais de fait... Effectivement, Daesh appuie là où ça fait mal. C'est que il y a un problème depuis 20-30 ans, on va vers une sorte de lecture de plus en plus confessionnelle de cette région, qui a été favorisée par la guerre du Liban, qui a été favorisée par l'invasion de l'Irak, par les Américains, par tout le monde. Et à la fin, la logique, c'est Daesh. Le problème, c'est que si on avait une offre alternative à proposer aux sunnites, c'est-à-dire, je ne sais pas, un État parlementaire, libéral, du progrès social, de la croissance, etc., peut-être qu'ils adhéreraient à notre modèle. Et c'est ça que je trouve terrible et déplorable dans la coalition, dans la lutte qui a été lancée contre Daesh par Obama, c'est qu'il n'a rien proposé aux sunnites. Il a juste dit, nous allons écraser Daesh. Écraser Daesh, c'est écraser les gens qui, en Irak, sont considérés comme les seuls à même de protéger de l'injustice profonde, de l'oppression incarnée par le gouvernement chiite depuis une décennie.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Denis Bochard ? Est-ce qu'on peut dire que finalement, la solution, elle ne peut pas passer exclusivement contre Daesh ? C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de la solution qui pourrait se faire, si ce n'est avec Daesh, ou en tout cas, enfin, pas à 100% contre.
Oui, je pense qu'effectivement, les États-Unis ont des préoccupations qui leur sont propres et qui ne coïncident pas forcément avec celles des autres acteurs régionaux ou extérieurs. Effectivement, les États-Unis visent surtout, pour reprendre les termes d'Obama, l'éradication de Daesh, plus facile à dire qu'à faire. Mais manifestement, les Américains ne se donnent pas les moyens de cette éradication. car ils craignent effectivement de retomber dans un bourbier moyen-oriental d'où ils ont réussi à se soustraire. Non, sans mal. Ce qui rend le problème extrêmement complexe, c'est que les principaux acteurs de la coalition, bon, il y a 60 pays, dit-on, théoriquement dans la coalition, mettons qu'il y en ait une dizaine qui jouent un rôle très actif, que les objectifs de ces acteurs principaux ne sont pas les mêmes et sont parfois contradictoires. Les États-Unis, donc, c'est plutôt Daesh, mais leur détermination à éliminer Bachar el-Assad est sujet à caution. Les Turcs, c'est l'élimination certes de Bachar el-Assad, mais c'est surtout maintenant la menace d'un État, d'un nouvel enclave kurde autonome à sa frontière sud.
Et d'ailleurs, les interventions qui sont faites en Syrie visent essentiellement le PKK davantage que l'État islamique.
La Turquie a eu dans le passé une grande complaisance vis-à-vis de Daesh et cette complaisance demeure encore largement. Les Russes, eux, soutiennent Bachar. C'est aussi un problème de politique intérieure en Russie parce que le patriarcat orthodoxe soutient les chrétiens grecs orthodoxes de Syrie, partage leurs préoccupations. Mais pour les Russes, le problème essentiel, c'est effectivement le retour de ces combattants, parce qu'il y a dans les rangs de Daesh beaucoup de Tchétchènes ou d'Ouzbèques, donc originaires d'Asie centrale, mais qui, faut pas oublier que Moscou est une ville musulmane à raison à peu près de 2 millions d'habitants sur les 14. Quant à l'Iran, naturellement, ses objectifs sont à la fois le maintien, sinon de Bachar, mais tout de même d'un régime qui leur serait favorable. Et c'est effectivement la guerre contre les sunnites extrémistes et puis la volonté, naturellement, de conserver leur protectorat en Irak.
On ne peut pas résumer ça dans une formule qui consisterait à dire qu'on fait la guerre contre le terrorisme. Ça ne suffit pas à mettre un peu de fluidité dans cette complexité.
Oui, mais les terroristes ne sont pas forcément les mêmes pour tous les acteurs.
Pierre Azou.
Oui, les deux des difficultés que je vois sur ce front, c'est qu'en fait, si on veut efficacement contenir Daesh, et la question c'est est-ce que tous les voisins régionaux concernés, c'est-à-dire les voisins de l'Irak et de la Syrie, ont intérêt ou pas à réellement éliminer Daesh, parce que finalement Daesh a aussi pour un certain intérêt. C'est un petit peu comme le loup dans la cage qui fait chiffon rouge et qui permet justement à tous les gens autour de crier au loup. Mais donc ce qu'il faut, c'est que le loup soit là, mais il faut surtout qu'il y ait quand même une cage avec des grilles solides pour éviter que le loup sorte. Donc c'est un petit peu là-dessus où on est actuellement. Mais les deux difficultés majeures, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et il faut faire accepter l'idée que des pays qui...
Tout le monde, y compris l'ensemble des combattants, enfin des forces combattantes...
Oui, mais surtout, y compris tous ceux qui veulent lutter efficacement contre Daesh donc, et qui ne veulent pas se parler entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, il faut mettre autour de la table des gens comme... Il faut mettre l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, y compris le régime syrien, la Turquie... Évidemment, un certain nombre de ces acteurs ne veulent pas se parler. Donc, quand ils ne veulent pas se parler, on comprend bien que ça va être difficile de coordonner la campagne contre Daesh.
Et mettre tout le monde, pardonnez-moi, autour de la table, c'est ce qu'on disait déjà il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an.
Ben oui, mais on n'a pas progressé là-dessus.
Est-ce qu'on a régressé ?
Je ne sais pas.
Il me semble qu'on a tout de même un peu progressé parce que l'Iran est maintenant considéré comme un interlocuteur valable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à une date récente. Et la présence de l'Iran étant recusée par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite et par nous-mêmes, par la France.
Christophe Ayad, et ensuite je vous laisse
poursuivre. Parce que, vu par les Syriens, on a régressé. C'est-à-dire que les bilans d'il y a 2-3 ans paraissent dérisoires à l'échelle de là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque mort provoque une envie de mort ou une envie de vengeance. Donc, de ce point de vue-là, on a, je pense, hélas, pris pour 15 ans. C'est-à-dire que...
Ce sentiment de régression, d'ailleurs, pourrait expliquer le fait qu'il y ait de plus en plus de Syriens qui essaient de fuir leur pays. Alors,
On s'en rend compte aujourd'hui en Europe, mais il y en a eu beaucoup au Liban, beaucoup en Jordanie, beaucoup en Turquie. Mais est-ce que c'est une forme de sentiment d'irréversibilité, de fatalisme qui fait qu'il n'y a plus d'avenir dans le pays pour les Syriens?
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de Syriens qui sont extrêmement nombreux, qui commencent à se dire que ils ne vont pas attendre de pouvoir rentrer chez eux, parce que ça ne va pas arriver bientôt, que chez eux, ça a été détruit, volé. Souvent, il y a énormément d'expropriations de terres de tous ceux qui ont fui par une élite qui est de moins en moins nombreuse, mais qui après tout a beaucoup plus de choses à se partager, enfin de terrain en tout cas, et que ces gens-là ne voient plus leur avenir dans leur pays. Le drame, c'est que ceux qui ont les moyens de fuir, ceux qui ont les moyens d'arriver jusqu'en Allemagne, jusqu'en Suède, ce sont souvent les plus lettrés, les plus intelligents, ceux qui ont envie que leurs enfants étudient. Donc c'est les gens qui pourraient reconstruire une Syrie demain, ou après-demain, ou dans 10 ans, 15 ans. Ces gens-là, au bout de 15 ans, ils seront allemands, ils seront suédois, ils seront grecs ou je ne sais quoi. Et ils ne seront plus là pour reconstruire la Syrie, qui en aura plus que jamais besoin et qui sera aux mains de chefs de guerre, garagistes devenus chefs de milice et cordonniers devenus chefs politiques.
Pierre Azo. Oui, et les autres, justement, eh bien, on les retrouve où ? Ben, en Liban, au Liban essentiellement, et en Jordanie. Et en Turquie, bien sûr, aussi. Ça veut dire que le problème, c'est que on parle beaucoup de la déstabilisation des pays européens, par les événements de cette dernière semaine, mais les deux pays qui sont les plus aujourd'hui menacés par les flux massifs d'immigrants liés à la guerre civile syrienne, c'est le Liban et la Jordanie. Je veux dire, au Liban, quand même, il faut réaliser qu'il y a un tiers, enfin, entre un quart et un tiers de la population effective qui occupe et qui vit au Liban, qui est composé de réfugiés syriens.
Donc, plus d'un million de réfugiés. Hein,
plus d'un million. Donc c'est colossal. Et je voulais dire, le deuxième point que je voulais évoquer tout à l'heure, pour comprendre aussi la difficulté de ce qui se passe, c'est qu'il n'y aura pas de solution militaire sans option politique. C'est-à-dire que, comme le disait M. Obama et d'autres chefs d'État, bien entendu qu'il faut agir militairement, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la solution qui est militaire, parce qu'il faut battre et il faut, à défaut d'éradiquer, au moins il faut contrôler et il faut réduire militairement Daesh, pour justement fragmenter Daesh et faire en sorte que ceux qui ont rejoint Daesh, notamment pour des intérêts corporatistes, ethniques, religieux, puissent avoir une porte de sortie pour en sortir. Mais en même temps, il faut traiter les vrais problèmes politiques de la région. Et ces problèmes politiques, c'est toujours pareil, la question palestinienne, la question kurde, l'affrontement entre sunnites et chiites, qui est très largement instrumentalisé par les uns et par les autres. Et je le disais tout à l'heure, mais la question du rôle dévolu aux frères musulmans dans les sociétés arabes et les pays arabes aujourd'hui.
On voit à quel point, effectivement, la question est large.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Voilà, Damas est-elle l'épicentre du désordre mondial? C'est la question que nous posons ce soir à Pierre Razou, Christophe Ayad et Denis Beauchard. Alors, on essaie de mettre un petit peu de clarté dans la complexité de ce conflit en Syrie et puis de la complexité des rapports régionaux. Est-ce que vous diriez, Denis Beauchard, qu'après plus de 4 ans de guerre, vous qui avez beaucoup travaillé au Moyen-Orient, cette région-là est beaucoup plus difficile à comprendre, ou bien est-ce qu'il y a eu une forme de clarification justement du fait de ce clivage entre, alors, d'un côté les sunnites et de l'autre côté les chiites? Est-ce que, si on est un petit peu cynique, on pourrait se dire que la guerre de Syrie a peut-être servi à une forme de clarification des forces en présence?
Si l'on peut dire, je pense que la complexité des conflits au Moyen-Orient, notamment en Syrie, reste un élément majeur, et que le problème me paraît moins d'ailleurs un affrontement sunnite-chiite qu'un affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite par population sunnite et chiite interposée. On a là effectivement deux grandes puissances régionales qui revendique à la fois un leadership religieux à l'ensemble dans l'ensemble du monde islamique, et qui, s'agissant de l'Iran, se veut à la tête du combat contre l'impérialisme américain, malgré les accords, malgré l'accord sur le nucléaire. Et donc, c'est là l'enjeu essentiel. La simplification essentielle, si tant est qu'il y ait une simplification, et qui explique que cet affrontement Arabie Saoudite-Iran se propage sur différents champs de bataille, dont le principal, naturellement, est effectivement l'Irak et la Syrie. Mais il y en a d'autres, en particulier le Yémen. Et il y en a d'autres aussi, peut-être bientôt, en Égypte, en Libye. On sent qu'effectivement, que ce champ de bataille rayonne et, si on ne l'arrête pas, peut avoir des effets très sérieux. Non seulement provoque une sorte d'implosion au Moyen-Orient, mais pose naturellement à l'Europe en particulier un vrai problème de sécurité.
Je le disais tout à l'heure, François Hollande, devant les ambassadeurs récemment, disait que voilà, le monde avait réagi beaucoup trop tard. Est-ce qu'il y a l'idée aujourd'hui, Christophe Ayad, qu'il y a une part d'irréversible qui a été faite dans la région? Ou bien est-ce que le projet consiste, alors bien sûr sans Bachar el-Assad, s'agissant d'une solution politique, voire militaire, mais de revenir à l'ancien équilibre ou à l'ancien déséquilibre, je sais pas comment il faut dire.
Moi je suis un grand pessimiste, c'est-à-dire que je pense que oui, les révolutions arabes et ce qu'elles ont entraîné, la réaction de l'État syrien, ont créé un irréversible qui fait que l'ordre ancien est mort. Il est, en tout cas, il est obsolète. Les frontières, l'ordre politique, les hommes forts, tout ça c'est fini.
En Égypte, les hommes forts, c'est pas si fini que ça.
C'est pas fini, mais combien de temps? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, tous les Arabes ont aussi vu Kadhafi lynché par des miliciens. Ça, c'était inimaginable. Les gens ont vu des frontières abattues. Et d'ailleurs, ces frontières n'étaient pas si claires que ça dans leur esprit. Entre Alep était plus proche de Mossoul que de Damas. Et ça a toujours été le cas. Puis il y a quelqu'un qui l'a dit avec un bulldozer, en mettant ça en scène. Bon, tout ça, on n'y reviendra pas. C'est-à-dire que, oui, on pourra remettre une frontière, on pourra essayer de remettre un régime, comme on dit, parce qu'on adorait ça, les régimes, dans les pays arabes. Et je suis pas sûr qu'ils tiennent très longtemps. L'Égypte est peut-être un peu à part, mais l'Égypte a quelque chose d'extérieur à l'histoire arabe aussi. C'est un pays, c'est peut-être le seul État qui a débuté bien avant, enfin qui a une histoire antérieure même à l'irruption de l'islam, des Arabes dans la région. Mais pour le Levant, c'est vraiment fini. Le problème, c'est que on est dans ce un peu comme dans les livres sur les pharaons, c'est dans la période intermédiaire numéro 2. Il y a eu cette instabilité 1916, 1923, 1924, 1925. Après tout, les protectorats ont du mal à s'installer en Syrie, etc. Donc pendant 8 ans, comme ça a secoué dans tous les sens. On a dessiné les frontières, on l'a redessiné. Les Français ont négocié avec les Anglais. Les gens se sont soulevés, ils ont été écrasés, gazés pour certains, etc. Et bien là, on est dans un nouveau moment comme ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que les armes de guerre sont autrement puissantes, parce que on est dans un monde moderne où l'information circule à toute allure, où les déplacements de population sont massifs et où il existe un ordre international, même fictif, mais enfin n'empêche qu'il existe des frontières. Et les remettre en cause, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui peut déstabiliser l'Afrique, l'Asie, etc. Donc dire « Ah bah, l'Irak est fini, prenons-en acte », c'est aussi ouvrir la porte aux Indonésiens, enfin à tous les gens, aux Birmans qui se battent depuis 15-20 ans contre cette chose qui s'appelle la Birmanie et qui n'est pas vraiment un ensemble. Donc là, c'est un vrai problème. Et donc, autant le monde ancien, c'est illusoire d'y revenir, de croire qu'on va renouer avec des hommes forts comme Bachar, comme Saddam, comme tout ça. Il y a tous ces nostalgiques qui disent « Ah, si Saddam était encore là », mais l'ordre nouveau, il émerge dans quelque chose de très chaotique, et en plus sans que personne ne veuille ou n'ait le courage d'en prendre acte, parce que c'est changer les règles du jeu, et ça, c'est un tabou que personne n'est prêt à franchir aujourd'hui.
Pierre Azoué, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, et si oui, est-ce que ça veut dire que, je sais pas, pourquoi pas en 2016, pour le 100e anniversaire des fameux accords Sykes-Picot, il faudra de nouveaux accords Sykes-Picot, c'est-à-dire voilà une redéfinition. Enfin, est-ce que ça peut être ça, le projet diplomatique, de se dire, on va réécrire
la configuration de cette région.
Comme le disait très justement tout à l'heure Christophe Ayad, je crois que le cœur du problème, c'est celui-là, c'est celui des frontières, c'est celui des ethnies, c'est celui clairement du nettoyage ethnique qui est fait de facto par les uns et par les autres. Et est-ce que donc il faut se poser la question, il faut oser poser la question des frontières. Quand on regarde, je dis pas qu'il faut changer les frontières, mais je dis il faut poser la question. Quand on regarde l'évolution des frontières au Moyen-Orient, on s'aperçoit que finalement la carte ressemble à peu près à ce qu'elle ressemble aujourd'hui depuis les années 30 et surtout depuis les années 50, c'est-à-dire 60 ans ou 80 ans. On regarde l'histoire, c'est rien. Regardez, faites simplement l'exercice et regardez à quoi ressemblait le Moyen-Orient il y a 90 ans, un siècle, deux siècles, trois siècles. On s'aperçoit que ça n'est plus rien à voir. Donc, réfléchir sur l'intangibilité des frontières, je suis pas sûr que ce soit forcément positif. Alors ensuite, qui peut redéfinir les frontières? Je crois que le piège, justement, c'est qu'il faut pas que ce soit un Sykes-Picot bis, ou parce que qui va le redéfinir, on n'en sait rien. Les Nations Unies ou les acteurs sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que, et là je rejoins tout à fait Christophe Ayad, on est dans une période chaotique et les nouvelles frontières ou les nouveaux équilibres sorteront probablement du chaos. Et ça m'amène à dire qu'un facteur dont on n'a pas parlé, mais qui est, je crois, crucial pour essayer d'imaginer ce qui risque d'arriver dans les années à venir ou les mois, c'est celui de l'évolution du prix du pétrole. C'est-à-dire que tant que le prix du pétrole et du baril est tendanciellement à la baisse, et ça c'est une stratégie volontaire qui finalement avantage un certain nombre d'acteurs, à commencer par nous, occidentaux, on crée de nouveaux équilibres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays qui ne vont plus pouvoir acheter la paix sociale, et d'autres pays qui vont pouvoir continuer à acheter la paix sociale, ou en tout cas parce qu'ils ont des contraintes différentes, ou etc. Et donc, ça va recréer de nouveaux équilibres dans la région.
Enfin, s'agissant de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, ils risquent d'être confrontés exactement au même problème, non ?
Non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes configurations, si vous voulez, purement économiques. C'est-à-dire que même avec un prix du baril bas, l'Iran peut s'en sortir parce qu'elle a d'autres sources de revenus et parce qu'elle investit. Je suis pas sûr que, compte tenu de l'évolution sociodémographique en Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite soit sur un train optimiste.
Je reviens sur la question des frontières, parce que dites que je crois quasiment tous les trois, il y a des questions tabous qu'on n'ose pas poser aujourd'hui. Mais oser poser cette question-là aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas, d'une certaine manière, donner raison à l'État islamique, Denis Bauchard ?
Oui, dans un certain sens. Mais je vois pas qui prendrait l'initiative de dire publiquement nous allons redéfinir des frontières au Moyen-Orient. L'époque de Sykes-Picot est totalement révolue. Les États-Unis, comme on l'a vu, ne veulent surtout pas se réengager au Moyen-Orient alors qu'ils ont des défis ailleurs, beaucoup plus importants à leurs yeux, notamment dans le Pacifique. Les Russes, même s'ils veulent affirmer leur présence au Moyen-Orient, revenir sur le Moyen-Orient, se garderont également, je dirais, d'apparaître comme une puissance impérialiste. Non, ce que l'on peut essayer de faire, c'est essayer de calmer le jeu de façon, je dirais, pragmatique, aussi bien en Syrie qu'en Irak, avec sans doute des moyens différents.
Ça veut dire quoi, calmer le jeu ?
Et en Syrie, on sent, je dirais, des frémissements. On sent qu'il y a de la part des Russes, peut-être même de la part des Iraniens, puisque Mohamed Zahav Sharif a fait des propositions pour essayer de ramener, d'amener un cessez-le-feu et de trouver, sinon une solution de fond, tout au moins une procédure. Et effectivement, on voit s'esquisser une procédure sur la base cessez-le-feu, gouvernement transitoire, commence à intéresser à la fois les acteurs régionaux, l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais également la Russie, et l'Iran et les États-Unis. Il y a eu de nombreux contacts cet été. On sent que les choses bougent un peu. Ceci étant, il y a toujours, je dirais, le problème fondamental. Est-ce que Bachar est l'élément de la solution ou l'élément du problème ? Est-ce que le préalable, c'est le départ de Bachar ? Et à ce moment-là, effectivement, il y a peu d'espoir de bouger.
Christophe Ayad, je crois que vous avez rencontré récemment pour Le Monde le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Vous avez signé un article à ce sujet, alors notamment il vous parle de la Syrie. Vous dites qu'il prône une politique des petits pas. C'est la politique qui semble la plus raisonnable aujourd'hui, ou c'est la seule qui est possible ?
Parce que c'est un habillage par rapport au fait que de toute façon, un grand règlement de paix n'est pas possible aujourd'hui. Vous n'avez pas d'accord, même si c'est vrai que Denis Bauchard a raison, il y a un frémissement tassement, il y a des gens qui réfléchissent, qui aimeraient bien sortir de ça. Moi, je reste quand même assez dubitatif au niveau syrien. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être à un moment mettre d'accord américains et russes. Je pense qu'on s'en rapproche de quelque chose qui est la Syrie devient une centrifugeuse beaucoup trop dangereuse. Il y a un réacteur, comme ça, il faut calmer le jeu. Peut-être même qu'un jour, saoudiens et iraniens arriveraient à quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en Syrie, alors, vous avez Daesh, mais vous avez les Kurdes, vous avez tout un tas de chefs rebelles qui sont devenus des sortes de chefs de village à la tête de... On est revenu au Moyen-Âge, c'est-à-dire vous avez des types qui dirigent des petites milices locales, font de l'argent avec ça, et qu'il va falloir acheter les uns après les autres ou rallier les uns après les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la guerre du Liban. C'est-à-dire qui a duré 15 ans, on a oublié, et dont certains chefs de milice sont aujourd'hui devenus des très grands politiciens. La plupart des partis libanais sont dirigés, mais ces gens-là avaient une culture politique au début de la guerre du Liban. Aujourd'hui, on en est encore assez loin. C'est-à-dire que, d'abord, la culture politique des petits chefs de guerre syriens, elle est très islamiste, beaucoup plus fondamentaliste que n'importe quel moment de la guerre du Liban. Et puis, elle est embryonnaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui, oui, ont affaire à des responsables turcs, saoudiens, ceux qui ont survécu, parce que c'est une vie assez dangereuse quand même. Mais on est loin d'avoir affaire à des gens qui, aujourd'hui, sont capables de s'asseoir à une table et passer des compromis. Ils pensent encore qu'ils peuvent, par les armes, gagner plus que par la négociation. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup à perdre. C'est-à-dire, ils n'étaient rien avant la guerre. On va leur dire, redevenez rien, c'est-à-dire redevenez ce que vous étiez dans un système où vous vendiez des savates, là où il y avait des héritiers qui ont fait des études à Harvard et qui eux s'en mettaient plein les poches. Ça, c'est un des aspects les plus compliqués à gérer, je pense, de la réalité syrienne, c'est que le pays est devenu une sorte de myriade de petits chefs de guerre qui ont une autorité sur 5, 10, 15 kilomètres.
Pierre Azou, la solution par les armes, elle n'existe pas. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, une forme de Stalingrad à la Syrienne, c'est-à-dire une grande bataille décisive qui pourrait être, alors je ne sais pas, la bataille d'Alep ou la bataille de Damas, et qui permettrait là, voilà, d'avoir une clarification aussi par rapport aux différentes forces en présence.
Non, en tout cas, tant que les équilibres actuels et les alliances actuelles restent valables. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux camps sont à peu près en force équilibrée, même si, on va dire, le camp pro-gouvernemental a plus de force que l'opposition. Mais il est obligé de tenir tout le terrain, enfin en tout cas une partie du terrain, y compris la Syrie utile. Donc en fait, il a éparpillé ses forces pour tenir et tenir ce qui est crucial pour lui. Donc il n'a plus suffisamment...
Il les a peut-être trop éparpillés, justement.
Oui, mais c'est un choix. C'est-à-dire que soit il lâche et il cède du terrain à l'opposition, il faut quand même tenir. Il est obligé de tenir une partie du territoire, au moins ce qu'il considère comme crucial.
Sauf à imaginer que le régime accepterait finalement l'idée d'une partition du pays et voilà, on aurait une forme de fédération
syrienne. Et pour répondre à votre question directement, ça veut dire que le régime n'a plus suffisamment de force, de réserve, si vous voulez, de réserve stratégique, on va dire, pour lancer une partie de ses forces dans la bataille sur un pont ou sur l'autre. Et de l'autre côté, l'opposition, qui a un peu moins de force que le régime, est complètement fragmentée, donc n'arrive pas ou ne veut pas réunir ses forces pour faire l'effort sur un point. Donc non, il ne peut pas y avoir de bataille cruciale, en tout cas dans l'état actuel du rapport de force sur un point ou sur un autre.
Vous êtes d'accord avec ça, Denis Bochard ?
Oui, tout à fait. Et à l'annonce près qu'il y a tout de même, parmi les forces de l'opposition, une dominante maintenant des mouvements islamistes, en particulier cette armée de la conquête, qui est en fait noyautée par le front al-Nosra, proche naturellement d'Al-Qaïda.
Christophe Ayad, là aussi, la bataille décisive, elle n'est pas pour demain ?
Non mais entre qui et qui ? C'est un peu le problème. Quant à Bachar, je pense qu'il préférera détruire son pays que partir. Enfin, il partira en le détruisant. Donc, c'est comme
ce qu'il
ça.
Il a plutôt montré pour l'instant. En tout cas.
Voilà, et c'est comme ça qu'il tient lui-même ses propres sponsors, les Russes, les Iraniens, qui, lorsqu'ils lui disent sois sympa, en général, il en remet une couche. Je pense que c'est une sorte de dissuasion du faible au fort.
Ceci étant, le départ de Bachar al-Assad ne résoudra pas le problème.
Ce sera peut-être une partie de la solution, mais pas la solution entière. Merci en tout cas infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Denis Bochard, Pierre Razou et Christophe Ayad, émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours, téléchargée pendant un an. Si vous souhaitez nous écrire, petit formulaire sur la page du Grain à Moudre, franceculture.fr. Cette émission a été préparée par toute l'équipe du Grain, comme à chaque fois, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Bert, réalisée par Jean-Christophe Francis à la prise de son. Ce soir, il y avait Clément Daté. On se retrouve demain à 18h20 pour poser la question suivante. Qui veut d'une décharge dans son jardin? Ce sera l'objet d'un 5 à 7 spécial.